Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 23 mars 2023 sur choc.ca, en direct tous les deux jeudis 18h30 ou en balado. Et aussi, on salue les gens qui nous écoutent sur la côte ouest, sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Les Apatrides Anonymes, c'est un pot pourri d'actualités locales, nationales et internationales. Racisme, immigration, frontières, enjeux autochtones, profilage, politiciens populistes et chroniqueurs haineux. Je m'appelle Simon, c'est à mon tour d'animer. On a en alternance à la console et au contenu mes frétillants acolytes Mathieu et Marie-Ève.
Bonsoir Simon.
Bonsoir Mathieu, salut Marie-Ève.
Salut, je frétille comme je peux.
D'accord, d'accord. frétillons les truites. Donc Mathieu est avec moi actuellement dans le studio principal, donc rebonjour. On te retrouve dans 3-4 minutes avec les actualités tunisiennes. Mm-hmm. Et plus tard dans l'émission avec un segment que tu as appelé « Racisme institutionnel ».
Exactement.
On va parler entre autres de la ville de Montréal.
La ville de Montréal, du fédéral aussi, évidemment, on ne peut pas s'en passer.
Puis le provincial, lui?
Oui, aussi.
OK, il me semblait aussi. Donc, Marie-Ève, qui est à la console pour l'instant. Salut Marie-Ève. Toi, tu nous as concocté un tour des actualités britanniques et françaises et aussi une chronique extractivisme canadien et relations internationales. Est-ce que je résume bien?
Oui, surtout pour ce qui est des minières canadiennes, ça va être sur les droits de la personne, en fait, et les minières canadiennes.
Est-ce que les minières entraveraient parfois les droits de la personne? C'est la question qu'on va se poser.
Non, voyons.
Donc, on regardera tout ça tantôt. Il y en aura, comme toujours, des nouveautés musicales et un agenda avec des suggestions militantes et culturelles. Donc, voilà. Marie-Ève, Mathieu, Simon, vous souhaite la bienvenue à cette édition des Apatrides de Anonymes. Les naufrages meurtriers se poursuivent. On enregistre sur les différentes routes migratoires en Méditerranée une augmentation de 116% en 2023 par rapport à la même période en 2022. Quelques événements dramatiques récents où on pointe du doigt l'Italie pour la ligne de plus en plus dure face à la question et aussi pour son indifférence quand vient le temps de répondre aux questions des journalistes. Donc, plutôt que de montrer de la compassion, on préfère montrer du doigt les migrants comme étant responsables de leur propre malheur. Ça semble être le nouveau spin médiatique pour éviter de répondre aux questions. Avant, on pointait du doigt les passeurs, principalement. On ajoute maintenant au discours officiel les migrants eux-mêmes. Donc, plusieurs propos disgracieux, comme d'habitude, de la part, entre autres, du ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. D'abord, il y a eu le gros naufrage du 26 février près des côtes de Calabre, à la pointe sud de l'Italie. Le bilan n'a pas cessé de s'alourdir. Les chiffres les plus récents que j'ai trouvés cette semaine, c'est 86 décès, plus une quinzaine de personnes disparues, donc vraisemblablement une centaine de morts sur les 180 personnes qui étaient à bord. Des personnes originaires principalement d'Afghanistan, dans ce cas-là. Ensuite, les 10 et 11 mars, sur trois embarcations différentes contenant chacune entre 400 et 500 personnes, un total de 1300 personnes a été secouru. Je ne sais pas si c'est un record, mais c'est vraiment énorme en 24-48 heures. Encore une fois, les gardes-côtes qui disposaient des informations comme quoi des navires surchargés se trouvaient dans leur secteur d'intervention, ils n'auraient pas agi assez rapidement. De ces trois opérations, c'est assez difficile d'avoir les chiffres exacts quant aux conséquences. On ne parle pas toujours officiellement de morts, mais de quelques dizaines de personnes qui manquent à l'appel. Finalement, toujours la même fin de semaine, le 12 mars, il y aurait environ 30 migrants qui seraient morts. Ce qui s'est passé, un navire marchand a été dépêché au large de la Libye pour prendre en charge 47 migrants en danger. Et bien, pendant l'opération de transfert de l'embarcation de fortune au navire marchand, l'embarcation des personnes migrantes a chaviré et on a réussi finalement à sauver seulement 17 personnes. On rapportait aussi mardi passé, 21 mars, il y a deux jours, 9 personnes mortes plus 8 disparues au large de l'Algérie sur une route migratoire un peu moins fréquentée. Les secours, dans ce cas-là, sont arrivés trop tard aussi. Que des ressortissants algériens qui se trouvaient sur cette embarcation de fortune. Donc, avant de plonger dans l'actualité tunisienne avec Mathieu, je reste une petite minute en Algérie, où on vient de célébrer, entre guillemets, le 4e anniversaire du mouvement populaire Irak, Irak avec un H devant. Un mouvement de contestation à travers tout le pays, un peu comme en Colombie. Un mouvement populaire qui avait commencé début 2019, qui s'est jamais essoufflé, sauf peut-être au pic de la pandémie. Mobilisation qui exigeait le départ du président Abdelaziz Bouteflika, qui en était à son 5e mandat, rien de moins. Démission qui a été obtenue, mais la mobilisation a élargi ses revendications pour réclamer des réformes démocratiques plus importantes. Mais le régime militaire n'a accordé aucune concession. Au contraire, la répression est allée croissante. On a cherché et on cherche toujours par n'importe quel moyen à étouffer le mouvement Irak et à faire taire par toutes sortes de moyens violents les citoyens, les médias et les groupes de pression. On parle de dissolution de tous les organismes qui appuient le mouvement, de harcèlement, de torture, d'arrestation et de détention arbitraire par milliers, sous des accusations ridicules comme, regardez bien ça, entrave à l'intérêt national pour des gens qui s'expriment et manifestent dans la rue, atteinte à l'intégrité territoriale. Je sais pas comment les avocats justifient ça. Et même le fameux fourre-tout dont on abuse toujours, des accusations de terrorisme pour, par exemple, des militants écologistes ou des avocats en droits humains. Donc, il y a plein d'ONG et d'organisations internationales, dont l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, qui demandent la fin immédiate de la répression. Mathieu, tu nous amènes dans le pays voisin où il y a quand même quelques éléments semblables dans le contexte social et politique actuellement en Tunisie.
Oui, puis on peut dire le Maroc, j'en ai parlé il y a pas si longtemps aussi de ce genre de répression-là, comme en Algérie. En Tunisie, c'est aussi, ça va de mal en pis au niveau de la démocratie, entre guillemets. Mais je veux surtout vous parler d'une situation qui dure depuis à peu près un mois. Donc, ça a commencé fin février, puis ça se poursuit actuellement.
Donc, en Algérie, là?
En Tunisie.
En Tunisie,
exactement.
Oui, excusez.
Fait que je vais revenir un petit peu en arrière. Le 21 février dernier, le président tunisien Kais Saied a tenu un discours très dur au sujet des hordes de migrants clandestins, entre guillemets, en provenance d'Afrique subsaharienne, dont la présence est selon lui source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Il a entre autres soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman.
Avec un genre de grand remplacement à la tunisienne.
Oui, à la maghrébine, ouais, si tu veux. Ouais. Il a appelé les autorités à agir à tous les niveaux, diplomatiques, sécuritaires et militaires, pour faire face à cette immigration. Et il a appelé une application stricte de la loi sur le statut des étrangers en Tunisie et sur le franchissement illégal des frontières.
Okay.
Cette charge est survenue quelques jours après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes eurent dénoncé la montée d'un discours haineux dans le pays en général. Selon ces organisations, l'État tunisien fait la sourde oreille sur la montée du discours haineux et raciste sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Ce discours est même porté par certains partis politiques qui mènent des actions de propagande sur le terrain, facilitées par les autorités régionales.
Ben c'est ça, ils participent à ce climat-là, en fait. Là.
Exactement. Puis ils l'encouragent. Deux jours après ce discours alarmiste et enflammé, on pourrait dire, il a déclaré que les personnes qui sont en situation légale en Tunisie soient rassurées. Bizarre, hein? Il a également demandé aux responsables de l'État de veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. On voit vraiment le double discours. Il a aussi dit que ceux qui assimilaient ses propos à du racisme mentaient et qu'ils essayaient de nuire à la relation de la Tunisie avec les autres pays africains. Fait que là, on tourne un peu en rond.
Genre de manichéisme.
Oui. Mais après ces propos, les forces de l'ordre sont passées à l'action. Plusieurs témoignages font état de migrants étudiants subsahariens qui se font expulser de chez eux. Les arrestations se font souvent de façon systématique et arbitraire, et au faciès, évidemment, que tu sois légal ou pas, et tout ce que tu peux imaginer. Les témoignages d'agressions envers des subsahariens se sont multipliés dans différentes zones du pays. Un exemple, à Sfax, dans l'Est, 4 migrants subsahariens ont été victimes d'agressions à l'arme blanche, tandis qu'à Tunis, 4 étudiantes ivoiriennes ont été agressées à la sortie de leur foyer universitaire, ainsi qu'une Gabonaise qui sortait de son domicile. Les domiciles des personnes de nationalité guinéenne, ivoirienne, malienne et camerounaise ont été pillés par leurs agresseurs après les attaques. Donc ça a été le climat fin février, début mars. Même un foyer abritant des réfugiés et des demandeurs d'asile LGBT à Tunis ont été attaqués par une foule d'hommes armés de bâtons et de couteaux. La police appelée sur les lieux a arrêté 8 ressortissants subsahariens pourtant légalement réfugiés en Tunisie.
Bon, c'est un climat barbare, là.
Oui, on peut dire ça, Simon. Oui, tout à fait. Les autorités ont averti tout citoyen qui hébergerait des personnes étrangères sans carte de résidence qui violent la loi. L'avertissement vaut aussi pour les employeurs qui font appel à des travailleurs étrangers non déclarés. Ainsi, de nombreux migrants subsahariens en situation régulière se retrouvent expulsés et sans travail du jour au lendemain et sans logis. Des Tunisiens qui, par contre, tentent de les aider en organisant des collectes, évidemment. Un geste de solidarité afin d'aider à la fois les migrants en attente de rapatriement chez eux et ceux qui restent cloîtrés sans pouvoir aller travailler ou étudier.
D'ailleurs, j'imagine les gens ont peur de sortir.
Oui, oui, c'est le climat vraiment, là, tu sais, c'est comme une chasse aux personnes noires.
C'est
là,
un
finalement,
mob lynch.
Exactement. Oui, tout à fait. Il y a quand même eu une manif contre le racisme le 25 février à Tunis qui a quand même réuni pas mal de monde. Parmi les réactions à l'international, la Banque mondiale a suspendu jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat financier avec la Tunisie, ce qui est une pression quand même importante dans un pays qui est aussi endetté.
Surprenant.
Oui, mais c'est pour protéger ses employés aussi, qui sont entre autres, mais aussi pour respecter leurs valeurs d'équité, d'inclusion, bon, etc. Il y a quand même un discours comme ça. Il faut savoir que la Tunisie, qui compte quelques 12 millions d'habitants, abrite seulement 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, qui est un petit nombre, et en majeure partie sont en situation irrégulière, mais ça, il y a des raisons évidemment à ça. Plusieurs États d'Afrique ont effectué des rapatriements pour les volontaires, mais l'organisation de ces vols retour a été retardée par les pénalités que doivent payer les personnes ayant dépassé le délai de séjour, qui s'élève souvent à plus de 1 000 euros. Donc, tu as tant d'amendes par jour que tu as été en situation régulière. Donc, quand tu veux quitter, il faut que tu payes avant de partir. C'est quand même pas pire.
Il pourrait pas exonérer, genre, franchement, c'est évident.
Vous allez voir la suite. Le 6 mars, les autorités ont annoncé plusieurs mesures en faveur des étudiants immigrants originaires d'Afrique. Elles ont délivré des cartes de séjour d'un an aux étudiants ressortissants des pays africains pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler leurs documents et ont prolongé les attestations de résidence de 3 à 6 mois. La Tunisie, afin de, je cite, « faciliter les opérations de retour volontaire dans un cadre organisé et en coordination avec leur mission diplomatique », a finalement annoncé que les candidats au retour volontaire seraient exemptés de l'amende dont je viens de parler.
Ben, c'est généreux, on applaudit.
On applaudit, hein? Il y a eu des pressions, évidemment. Cette semaine, donc, tout récemment, près d'un mois après les propos du président, la situation s'est relativement apaisée pour les migrants, encore présents au pays. Mais c'est les associations signalaient encore beaucoup de situations d'urgence sociale, des gens mal pris là, qui n'ont pas de logis. Mais il y a eu quand même 800 arrestations en février et en mars reliées à ces rafles et ces attaques, donc de ressortissants étrangers. De nombreux migrants ont été condamnés à 2-3 mois de prison pour séjour illégal sur le territoire. Ça a été assez rapide, les procès, entre guillemets.
Ils ne veulent pas qu'ils soient là, mais ils les mettent en prison.
Voilà. Autre conséquence, à Sfax, dans l'est du pays, la ville fait face à la recrudescence des départs irréguliers en mer, parce qu'il y en a qui sauvent, ils ne retournent pas dans leur pays, ils sauvent vers l'Europe, évidemment, de plus en plus. Donc, en terminant, un petit peu d'analyse là-dessus, faut savoir que Kais Saied, c'est un autocrate qui était président plutôt symbolique, qui a pris le contrôle du système parlementaire en transformant le régime en régime présidentiel. Il a dissous le Parlement, il a pris le contrôle de la justice, il fait de la répression contre les médias, les ONG, et c'est quand même une récente démocratie, entre guillemets, la Tunisie, donc
ouais, c'est fragile. Ils
sont vraiment à dérive actuellement. Il y a un discours fondé sur la dénonciation d'une intrusion étrangère dans la société. Ça, c'est le discours du président. Il accuse l'opposition d'être entre les mains de l'étranger, les ONG, d'œuvrer pour des intérêts extérieurs. On connaît le discours. Ouais. Il existe aussi chez lui un discours identitaire basé sur la notion de pureté de l'identité tunisienne comme pays arabo-islamique, avec l'idée qu'il faut revenir aux valeurs traditionnelles. Il cherche à créer un nouvel ennemi pour les Tunisiens afin d'éviter d'être désigné comme responsable de la grave crise économique qui traverse le pays depuis quelque temps. Et évidemment, les départs vers l'Italie sont au plus haut depuis un an et la Tunisie a le plus grand mal à donner des gages à ses partenaires européens de son action pour contenir cette immigration vers l'Europe. Donc, l'hostilité affichée du chef de l'État envers les migrants pourrait être aussi un moyen de tenter de raffermir sa position sur le sujet. Et sinon, ben, vous peut-être mentionner aussi qu'il y a un élément intéressant, c'est que il y a l'intérêt qu'ont de nombreux patrons à maintenir les migrants dans une situation irrégulière pour les exploiter.
Ben oui.
En Tunisie, le secteur informel représente 30% de l'économie chez les Tunisiens et près de 50% chez les subsahariens qui sont dans l'économie informelle. Donc, cette économie informelle et les officielles va pâtir évidemment de cette vague qui est arrivée d'hostilité et de violence qui a fait fuir beaucoup de gens qui étaient là vers l'étranger, ben, soit dans leur pays d'origine ou vers l'Europe.
Ça va accélérer leur mouvement, en fait.
Là. Exactement. Donc, voilà ce qui se passe un peu en Tunisie actuellement.
Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est ou bien ils sont mis en prison... Ou bien s'ils restent puis ils se font pas prendre, ben le temps qu'ils se font prendre, ils se font donner des amendes, ça qu'on les siphonne finalement du peu de ce qu'ils ont, puis sinon ben c'est ça, c'est qu'ils la plupart décident de fuir, de précipiter leur départ vers l'Europe, donc j'imagine dans des conditions encore plus dangereuses parce qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition.
Prêts à payer plus cher, à pas prendre les précautions de base.
Exactement, c'est ça. Fait que j'ose même pas imaginer le climat de terreur.
Oui, puis en plus, peut-être un dernier exemple, pour les ressortissants qui n'ont pas d'ambassade à Tunis, il y a des pays qui n'en ont pas, un campement a été improvisé devant le siège de l'OIM à Tunis, et les personnes dorment dans des conditions insalubres, donc ceux-là sont un peu entre deux, ils peuvent pas repartir, ils peuvent pas travailler, ils ont perdu leur logement dans certains cas, bon, ça se calme un peu, je pense que bon, mais c'est un, vraiment une ambiance particulière. Là.
Ouais. Ouais.
Voilà, Simon.
Bon, on va espérer que la situation s'améliore en Tunisie. Donc, ben merci beaucoup, Mathieu. On va aller en musique. Au retour, on va retrouver Marie-Ève pour des actualités britanniques, pardon. Et on va justement entendre un duo de Londres, de South London, qui est composé de Lucy Alexander à la voix et guitare et de Luke Cartledge à la batterie. Leur projet s'appelle Scrunch. La pièce qu'on va entendre, Hit, c'est de leur mini-album sorti à l'automne dernier qui s'appelle Sugar Daddy. Donc on écoute Scrunch sur choc.ca. Le duo Scrunch aux Apatrides Anonymes, c'est Marie-Ève qui est en ma compagnie dans le studio principal maintenant pour des actualités françaises et britanniques. Donc, tu commences par quel pays?
Je commence par le Royaume-Uni.
Super!
Puisque au début du mois, le gouvernement britannique et sa sinistre de l'intérieur...
Ah, comment que j'ai oublié son nom?
Suella Braverman encore une fois fait l'unanimité contre eux, à l'exception bien sûr là, des conservateurs, pour leur projet de loi visant à expulser automatiquement les migrants arrivés de façon irrégulière, sans même qu'ils puissent demander l'asile au Royaume-Uni, ce qui est tout à fait illégal.
Complètement.
ces personnes-là vont aussi être, ben, selon le projet de loi, là, seraient interdites à vie sur le territoire. Seuls les mineurs ou les personnes gravement malades seront pas visées par cette loi-là. Et le Parlement va aussi fixer chaque année un quota de réfugiés autorisés à s'installer au Royaume-Uni.
Donc plein de monde qui n'auront pas l'opportunité de prêter serment au roi.
C'est ça. Ça, c'est les grandes lignes du projet de loi. Le gouvernement a pas donné de plus de détails là, sur la logistique ou la date de mise en œuvre de la loi. Il s'est borné à promettre de développer des, entre guillemets, voies sûres et légales pour les réfugiés. Je cite le premier ministre Rishi Sunak. Si vous arrivez de manière irrégulière, vous ne pouvez pas demander l'asile, vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne, vous ne pouvez pas faire de demandes fallacieuses liées aux droits humains et vous ne pouvez pas rester.
Donc, il faut fuir l'esclavage de manière régulière.
Pour se faire, oui, et pour se faire ensuite renvoyer chez soi. Évidemment, toutes les ONG ont dénoncé un projet qu'elles considèrent inhumain et, comme je le disais, illégal. Le HCR, lui, estime que le projet de loi pourrait carrément abolir le droit d'asile au Royaume-Uni pour les personnes migrantes arrivées de façon irrégulière sur le territoire. Il estime aussi qu'il constitue une violation claire de la Convention de Genève. D'ailleurs, le gouvernement a lui-même avoué ne pas savoir si son projet est compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Des détails.
Mais il y a même les professionnels du droit des migrations qui s'interrogent sur la faisabilité du projet là, au-delà de sa légalité à proprement dite.
Ben, le mot magique, c'est Rwanda. Peut-être?
Ou... Je vais y revenir.
Ah, OK.
À la fin, c'est que le texte prévoit justement de détenir les personnes arrivant par la Manche avant leur renvoi, et les spécialistes font valoir que, avec raison d'ailleurs, que Londres a pas les capacités de détention nécessaires et que aucun pays partenaire serait prêt à accueillir ces personnes migrantes là. Mais la colère a largement dépassé la sphère politique pour s'étendre à celle du sport et des médias. Imaginez-vous, parce que la critique la plus cinglante est venue de Gary Lineker, qui est un ancien joueur de soccer et présentateur vedette de la très populaire émission de la BBC Match of the Day, sur Twitter, où il compte 8,8 millions d'abonnés quand même. Gary Lineker a dénoncé, et je le cite, une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas sans rappeler celui qui a été utilisé par l'Allemagne dans les années 30.
OK, il fesse quand même,
il
le monsieur.
Il fesse pas pire, oui, il y a un bon coup.
Un bon droit.
Les propos de Lineker, qui a, lui, a l'habitude d'exprimer là, ses positions politiques progressistes, notamment pour l'accueil des réfugiés, ont vite plongé la BBC dans la tourmente. La droite s'est évidemment empressée de remettre en question l'impartialité du radiodiffuseur public britannique. Faut savoir que la BBC, on le sait, régulièrement attaqué par les conservateurs, qui l'accusent, entre autres, d'avoir couvert le Brexit de manière biaisée et de s'intéresser plus aux élites urbaines qu'aux classes populaires.
Ben, c'est comme la CBC, Radio-Canada ici, que les conservateurs veulent fermer tout à tout champ.
Puis d'ailleurs, l'année passée, le gouvernement a gelé, le gouvernement conservateur a gelé pour 2 ans les redevances de la BBC. Donc, dans les jours qui ont suivi la sortie publique de Lineker, la BBC l'a suspendu, ce qui a fait qu'empirer les choses, en fait. Le mot-clé que boycott BBC est même devenu la tendance du jour sur Twitter. La programmation sportive...
Fait que là, le monde de droite et de gauche boycottait la BBC.
Exactement. La programmation sportive de la BBC a été chamboulée pendant 2 jours parce que plusieurs émissions sportives ont été annulées à la dernière minute à la suite du refus de travailler de la part de personnes solidaires de Lineker, ce qui a forcé la BBC à présenter des excuses à ses téléspectateurs et à finalement réintégrer le commentateur sportif, qui lui a dit qu'il assumait tout à fait ses propos et qu'il ne les retirait pas.
Bon.
Et donc, tu mentionnais le Rwanda.
Oui, là, on disait opérationnellement, qu'est-ce qui va se passer pour les renvois?
Je termine justement avec Suella Braverman, parce qu'elle s'est rendue à Kigali le week-end dernier, au Rwanda, où elle en a profité pour visiter les habitations pour demandeurs d'asile en cours de construction, même si on le sait, le programme de renvoi est toujours devant les tribunaux. Et donc, je vais juste me contenter de la citer parce que je vous en jugerai par vous-même. Alors, j'ouvre les guillemets. C'est accueillant, chaleureux et très bien décoré. Je prendrais bien le nom et quelques conseils de votre décorateur intérieur.
Mais elle est bien épaisse.
Elle a parlé à monsieur, mon ami Paul, Paul Kagame.
Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'ils ont décoré ensemble.
Il est décorateur.
Un beau travail d'équipe.
Il est décorateur maintenant.
Et on nage dans l'absurde. Merci, Marie-Ève. J'espère. On va passer quelques notes de musique pour que tu reprennes ton souffle et nous parler de la France dans une minute. Mais j'espère qu'on va rire autant, même
un
si
peu
c'est
moins,
pas toujours
pense,
drôle.
Ouais, non, c'est ça.
On rit pas en France.
Non. J'ai pas de compte Twitter, mais je pense que je vais m'en créer un juste pour m'abonner à celui de Madame Braverman. Elle a l'air tellement désopilante. Fait que tu dis, on va moins rire, là, tu nous parles de la France. Là.
Oui, on a déjà parlé beaucoup quand même là, du problème de l'hébergement des personnes sans papier et criant, on le sait, dans plusieurs pays, puis la France fait pas exception.
Non.
À un point tel que les associations qui leur viennent en aide doivent parfois faire preuve de beaucoup d'imagination pour les mettre à l'abri. D'ailleurs, depuis quelques mois, à Paris, à quelques pas de l'Arc de Triomphe, chaque nuit, environ 70 personnes qui trouvent refuge dans un parking prêté, un parking intérieur, là, prêté par un particulier à l'association Utopia 56.
Okay.
Celui-là sert de refuge à des personnes qui viennent principalement là, d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, mais aussi du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud. On parle surtout de femmes seules et de familles. C'est un lieu donc qui est temporaire et qui fonctionne en parallèle du système d'accueil en hébergement que coordonne Utopia 56 et donc qui sert seulement d'endroit pour passer la nuit. Donc, ça veut dire que les personnes partent tous les matins et vont se rendre la plupart du temps à l'accueil de jour de l'association.
Comme un refuge pour les personnes en situation d'itinérance.
Exactement.
Un peu,
ouais. Et chaque jour, ben en fin d'après-midi, les femmes et les familles retrouvent l'association près de l'hôtel de ville de Paris avant d'être accompagnées sur le lieu. Il y a 3 salariés de l'association qui sont dédiés à ce lieu-là, où on dispose de tentes et de matelas, d'une petite cuisine, de l'électricité, des toilettes et d'un espace pour enfants. C'est pas chauffé, mais bon, il fait quand même entre 15 et 20 degrés dans cet espace, et donc c'est quand même plus chaud qu'à l'extérieur.
Moins humide, l'hiver parisien aussi, c'est pas confortable.
Non. Et donc, comme je le disais, c'est une solution temporaire, ça va prendre fin en avril parce que le particulier en question avait prêté les locaux pour 6 mois. Donc, ça va prendre fin en avril. Mais bon, ça offre au moins là, un endroit chaud et sécuritaire aux personnes pour passer la nuit et qui, surtout, les protège des interventions policières.
Ouais.
Par exemple, au début du mois, il y a 3 vannes de CRS qui ont débarqué au campement informel installé sous la station de métro Stalingrad dans le nord-est de Paris, où vivaient entre 70 et 100 hommes depuis 2 mois, la plupart originaires d'Afghanistan. Et lors de cette intervention-là, il y a un CRS qui a aspergé les couvertures, les matelas et les affaires personnelles des personnes migrantes.
J'espère qu'il est en prison.
Évidemment, lorsque il y a des recours, je vous en parlerai. Là, évidemment qu'on sait que quand les matelas, les couvertures ou les vêtements sont imbibés de gaz, ben ils deviennent inutilisables parce que bon, le produit peut créer des démangeaisons et des irritations de la peau. Et si ces pratiques-là sont courantes, il est quand même rare d'en avoir la preuve, mais ce qui est le cas actuel pour cette fois-ci, puisque la scène a été filmée par une résidente du quartier qui vient régulièrement en aide aux migrants-migrantes qui s'y trouvent. La dame a transmis les images à l'association Utopia 56, qui les a ensuite mises en ligne sur sa page Twitter. L'association... Tu parlais de recours, justement, l'association a saisi la défenseure des droits et l'inspection générale de la police nationale, ce qui se trouve à être la police des polices. Et donc, si la stratégie est toujours la même, c'est-à-dire intimider les personnes migrantes, les forcer à l'errance et les empêcher de s'installer, l'association Utopia 56 remarque que le harcèlement à l'encontre des personnes migrantes s'est vraiment intensifié ces dernières semaines. L'installation de tentes est presque immédiatement suivie d'un démantèlement et toujours à Stalingrad, il y a une équipe de police qui réveille les migrants, migrantes tous les matins et les force à quitter les lieux. À plusieurs reprises aussi, leurs affaires ont été jetées dans des camions à ordures alors qu'ils se trouvaient pas là, pendant qu'ils étaient ailleurs, là, qu'ils se trouvaient pas sur le campement. Et si on se déplace plus au nord, à Calais, la situation est encore pire puisque malgré des températures qui ont approché le point de congélation et des chutes de neige importantes, la préfecture a refusé de déclencher ce qu'on appelle le plan grand froid. D'habitude, lorsque ce plan grand froid-là est déclenché, la préfecture va ouvrir un hangar à proximité pour les hommes seuls, ainsi que des containers aménagés pour les mineurs non accompagnés.
Okay.
Mais là, la réponse en matière de mise à l'abri des autorités semble avoir changé puisque depuis plusieurs semaines, ce qui s'appelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, donc qui est le département là, qui est chargé de mettre les personnes à l'abri.
Les hébergements.
Voilà. Elle envoie un bus supplémentaire l'après-midi pour orienter les personnes migrantes en centre d'accueil. Donc, en plus du bus du matin à 9h30, il y a un second qui leur est proposé à 15h30. Sauf que ce qui arrive, c'est que très peu des personnes migrantes qui se trouvent là, la plupart, en fait, refusent d'utiliser ces bus-là puis d'aller dans les centres d'accueil parce que ces centres-là se trouvent à plus d'une heure de Calais.
Ah, c'est un peu une stratégie pour les éloigner, pour disperser, en fait.
Oui, puis pour les empêcher de tenter la traversée vers le Royaume-Uni. Ouais. Et puis, en plus, les personnes qui arrivent de soir ou de nuit à Calais ont pas les informations nécessaires sur la mise à l'abri. Donc, c'est une solution, entre guillemets, qui en est pas vraiment une parce que elle exclut beaucoup de personnes. Pour preuve, lorsque les associations ont contacté la direction départementale pour exiger une mise à l'abri renforcée, c'est-à-dire par le déclenchement du plan grand froid, la direction départementale leur a répondu que 27 personnes migrantes avaient été mises à l'abri par ce bus dans la journée.
Okay.
Sauf que là, il y a près de 2000 personnes qui campent à Calais.
C'est insignifiant.
Non, mais c'est ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Là, c'est juste... c'est n'importe quoi. Là.
C'est rien de pérenne. C'est aucune solution à moyen long terme.
Non, pas du tout.
Pour régler les différents...
Pas du tout. Donc, alors voilà, c'est la situation dans cette belle France.
T'as raison. C'était moins drôle que pour Britannique. C'était pas drôle du tout, en fait. Mais c'était très informatif. Donc, merci beaucoup pour ces actualités françaises et britanniques, Marie-Ève.
C'est un plaisir.
Ça brasse pas mal. Sans compter, on suit l'actualité en France. La réforme des retraites, ça va bien.
Oui, ça va casser.
On pensait que le gouvernement allait tomber, mais il semble que non, malheureusement.
De justesse.
Donc, avant d'aller écouter de la musique, quelques actualités plus locale aussi, des suivis. En fait, l'accès est de plus en plus difficile aux services, les obstacles dont on parlait il y a quelques semaines, les organismes qui sont complètement débordés, à bout de souffle et de ressources. On parlait du phénomène grandissant des femmes migrantes enceintes à qui on ajoute le fardeau de devoir probablement payer pour l'accouchement. Facture qui peut aller de 10 000 à 35 000 $ dans les cas les plus extrêmes, sans compter les dépenses dites périphériques. À défaut de pouvoir compter sur la couverture publique, moi je l'ai appris, c'est Médecins du Monde, en collaboration avec des organismes locaux, qui, au mieux de ses capacités, prend le relais du réseau public de la santé, auquel à peu près 50 000 résidents étrangers n'ont pas accès de manière gratuite et universelle, que ce soit des personnes non documentées ou en attente de statut, des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires, etc.
On parle au Québec ou
au Québec,
Canada?
Au Québec seulement. Ça exclut pas le fait, faudrait vérifier, mais Médecins du Monde est peut-être actif à Toronto ou ailleurs aussi, mais le 50 000, je parle du Québec.
Là, OK, t'sais. Parfait.
Dans le cas des femmes enceintes, le réseau public entre seulement en scène au moment de la naissance de l'enfant, qui, lorsque né ici, est automatiquement citoyen canadien, mais pas la mère. Donc,
tout le suivi prénatal n'est pas du tout...
Il est inexistant. Il n'y a aucune intervention du réseau public. Donc, pour tous les services publics et soins qui sont requis avant la naissance et jusqu'à la naissance en tant que telle, jusqu'à la seconde de la naissance, le réseau public n'intervient pas, à moins que la mère ait une grosse carte de crédit, évidemment, parce qu'il y a moyen de payer pour ces soins-là. Donc, ça pose toutes sortes de questions. Ça met en danger la santé des femmes et des bébés. Et si on comprend la logique, ben, on se rend compte que les femmes sur le point d'accoucher, elles ne sont pas admises gratuitement dans les hôpitaux puisque le bébé n'est pas encore là. Donc, je pense que le principe est clair. Christian Dubé, notre ministre provincial de la Santé, qui a peur d'un éventuel tourisme obstétrique, attend le rapport d'un groupe de travail qui doit être rendu public en juin. On jonglerait avec différents scénarios allant du statu quo à la couverture gratuite pour toutes les femmes. J'espère qu'on va s'inspirer de plein de pays européens et même d'une quinzaine d'États américains et offrir à toutes les femmes enceintes qui se trouvent au Québec, peu importe leur statut, les soins gratuits. En tout cas, personnellement, je trouve que ça n'a pas d'allure que des ONG comme Médecins du Monde soient complètement débordées par des cas de femmes enceintes au Québec, alors que normalement, ces organisations internationales sont déployées là où il y a des conflits armés, des crises sanitaires ou des catastrophes naturelles. Donc, c'est vraiment pas normal que Médecins du Monde fasse la job du gouvernement du Québec, finalement. On va retrouver Mathieu avec sa chronique « Racisme institutionnel au retour de la pièce musicale ». C'est du hip-hop montréalais de la mouvance Queercore. Ça date quand même de quelques mois, mais on n'en avait jamais fait jouer aux Apatrides. L'artiste, au moment de l'apparition de cette pièce, était connu sous le pseudonyme de No Crust, avec le chiffre 5 à la place du S. Rappeur maintenant appelé tout simplement « Truck » comme « camion ». C'est une collaboration avec Lonely Girl 15 qui, je pense, est fictive. Et la pièce s'appelle Got Gallop et on écoute ça maintenant. Fantasy bought with elastic, tethered at the vanity cost. Shirt off my pics in the loop. My cock kicks fit the loop. Posture band like a pick lock, bobbing pin, spoon friends like bed side heroin. A plume pen likes to feather. Bad weather or brewing. Red shot, fuck a space head. Chicken cluck y'all, only eco caddy. We can fuck butt, I'm a sugar daddy. Come into your body, get fucked up. Gallop a car on a bus bus. Pull up with a kick cause it's lace. Have y'all have a fucking case. Take an argument about a terrorist with small wrists. Fuck Elon Musk. Pick a hop on the chick, dick, licking, waiting. List, put your bag, cash at the wrist. Always looking down, you a fucking laggy. Something bitch, you can just ask me. Small blade for a bitch with no faculty. Your paparazzi fuck a pig. Yeah, we cut your ass cheeks. This kid a Cosby and you calling that a CA. Uni sluts to aesthetic chase. Clutch your pearl and copy paste. Don't shame, you insult with a case. Kill with a tell, but the win only what you can sell. Selfish, bravado like a selfish. Yeah, fuck it. Huffing on myself that go pussy squelching. Oysters suck back, make it don't fuck judge. Bitch fat, just lit memory ash. Hermit complexion's a farmer's penance. Fuck it, put the you in a bomber. I'd be better off a fast food fashion. In an artist mix, these who acted told me telling me that he don't eat. Check him over and plant the seed. Yeah. Crust, la pièce God Gallop, je suis en compagnie de Mathieu, tu vas nous parler de... On avait intitulé ça racisme institutionnel, mais tu peux préciser.
Oui, je peux préciser, je vais parler de différents paliers de gouvernement, au moins deux, c'est dépendamment du temps que j'ai.
Peut-être j'aimerais ça un peu de provincial aussi.
Là. Oui, mais racisme systémique dans les institutions publiques, on va commencer avec la Ville de Montréal, dossier du Devoir la semaine passée qui a fait beaucoup de bruit.
Ouais.
En gros, c'est la thématique, c'est porter plainte pour racisme à Montréal mène souvent un cul-de-sac de la part des employés. On se rappelle qu'en 2020, la Ville a posé un diagnostic sur le racisme et la discrimination systémique et ses nombreuses à la Ville et dans ses nombreuses ramifications, ça peut comprendre le service des pompiers ou tout ce qui est municipal, finalement. Mm-hmm. S'engager à combattre le phénomène en mettant en place diverses solutions, systémiques ou non. Une enquête vient montrer que le système, justement, semble avoir avalé les bonnes intentions, porté plainte pour racisme à la ville et non seulement un parcours du combattant, mais aussi trop souvent une voie sans issue. Une trentaine d'employés municipaux provenant de 9 arrondissements de Montréal ont été rencontrés pour ce dossier. Après avoir subi des insultes racistes, de la discrimination fondée sur la couleur de peau, des attaques dégradantes formulées sous les rires et l'approbation silencieuse de supérieurs n'agissant pas du tout. La discrimination s'invite aussi sous une forme plus insidieuse, des employés possédant toutes les compétences requises pour accéder à un poste ou obtenir une nouvelle tâche, fondus sur place, sans cesse recalés par rapport aux autres, ce qui est autre chose que des blagues racistes, on s'entend. D'autres ne parviennent jamais à gravir les échelons dans le service. Dans certains arrondissements, les personnes racisées ne sont pas les bienvenues aux tables des autres à la cafétéria, ce qui crée une ségrégation digne d'un autre temps. Donc, ce genre de choses-là.
De l'enfantillage violent.
Oui, mais c'est vraiment intense.
Donc, je me rappelle, il y a l'histoire de Montréal-Nord qui était sortie peut-être un an, je ne sais pas trop, mais ici, ça, il semble que ce soit pas généralisé, mais à plusieurs autres endroits aussi.
On parle au moins de 9 arrondissements là, dans le cas de cet article présent.
Okay.
Montréal a créé le bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques qui est représenté par Bouchra Manaille.
Mm-hmm.
Mais sur le terrain, beaucoup disent que les plaintes sont parfois entendues par des responsables qui semblent mieux défendre l'auteur de l'insulte que l'insulter dans le cas de menace ou de blague. Les mécanismes ne sont souvent pas fluides et empêchent une plainte de mener à une sanction. La trentaine de personnes qui ont porté plainte n'ont pas obtenu justice, ce qui est la situation actuelle.
Ouais.
Je rappelle que selon les statistiques à la Ville de Montréal, 7% des cadres de direction sont des personnes des minorités visibles, 12,5% des cadres administratifs, 18% des cols bleus et 25% des cols blancs. Et juste information, avant-hier, qui était la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, les cols bleus ont manifesté devant l'hôtel de ville pendant que Valérie Plante annonçait le lancement de la semaine d'action contre le racisme.
Ils manifestaient pas en lien avec ça.
Par rapport à l'article du Devoir puis tout ça.
Parfait.
C'était pas une manif pour leurs conditions de travail. Là. C'était beaucoup les cols bleus racisés d'ailleurs qui étaient là à la manifestation.
J'imagine
là.
Quelques alliés, on va l'espérer aussi.
Le syndicat était là évidemment, le syndicat des cols bleus là, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour ça. Sinon, au fédéral, Simon, la Commission canadienne des droits de la personne, ça c'est cette semaine, a fait preuve de discrimination envers ses propres les employés noirs et racisés, a affirmé le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. L'organisme fédéral a fait ce constat en mars, plus de 2 ans après avoir reçu un grief de principe de la part de 9 employés de la Commission par l'intermédiaire du syndicat. Le grief fait état de racisme systémique anti-noir, de sexisme et de discrimination systémique visant les employés noirs et racisés.
La totale,
hein? Des employés et d'anciens employés évoquent un environnement de travail hostile et raciste au sein de la Commission. Selon eux, le travail des employés noirs et racisés et racisé n'est pas valorisé et leurs chances d'obtenir une promotion sont faibles. On parle un peu dans le même sens qu'à la Ville de Montréal, là.
Ben, peut-être que ça prendrait des formations en EDI à la Commission des droits de la personne.
Je suis sûr qu'il y en a.
Ouais, peut-être que ça pourrait être donné au Musée des droits humains à Winnipeg.
Oui, bien sûr. Donc, il dénonce par ailleurs le fait que la Commission rejette un grand nombre de plaintes provenant de personnes de minorités religieuses ou ethniques, alors que celles qui sont retenues sont conférées à des enquêteurs qui ne maîtrisent pas nécessairement les questions liées au racisme. Je cite un employé ou un ex-employé anonyme. On s'entend que la Commission ne va jamais affecter un groupe d'enquêteurs masculin pour examiner des plaintes liées à des allégations de harcèlement sexuel provenant d'une femme. Donc, ça, c'est un constat qu'on peut faire.
Ouais, ben ouais.
Et pourtant, pendant plusieurs années, ils ont jugé bon de confier à un groupe d'employés exclusivement blancs la responsabilité d'enquêter sur toutes les plaintes faisant état de racisme. D'autres employés ont aussi affirmé que leur objectivité avait été remise en question lorsqu'un sujet en lien avec le racisme était discuté, parce qu'il était racisé. Certains ont même indiqué avoir été expulsés de réunions portant sur des plaintes faisant état de racisme. Le directeur général de la commission et la commissaire en chef n'ont pas accordé d'entrevue pour l'article de la CBC.
Ils sont avec leur conseiller en communication.
Oui. Le caucus des employés fédéraux noirs, ça existe, a lancé un appel à une enquête indépendante sur le racisme au sein de la commission. Ils ont également demandé au fédéral de permettre aux Canadiens de déposer leur plainte directement au tribunal sans passer au préalable par la commission, une pratique qui existe déjà, entre autres, en Ontario et en Colombie-Britannique. Au Québec, il y a aussi la commission et le tribunal. Et on se rappelle qu'en 2020, une proposition d'action collective a été déposée devant la Cour fédérale, selon laquelle, depuis les années 70, environ 30 000 fonctionnaires noirs ont perdu des occasions d'avancement et des avantages accordés à d'autres fonctionnaires en raison de leur identité de groupe. Et tout récemment, le gouvernement fédéral a demandé le rejet de cette action collective en Cour fédérale. Donc, c'est fantastique. Fait que, tu sais, comment comprendre la logique dans tout ça, c'est assez spécial. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, Simon?
Ben, vrai. La
régisseuse intervient à ma faveur. Je vais y aller. Donc, provincial un petit peu ici, les services publics au Nunavik, c'est un dossier de la presse qui date d'il y a quelques semaines. La minorité la moitié des Inuits du Nunavik vivent dans un logement surpeuplé. Ah, une minute, OK. Donc, deux classes d'enfants de 13 ans n'ont pas eu de professeur de septembre à janvier. Les Inuits courent des risques 40 fois plus élevés de mourir d'un trauma. Donc, plusieurs éléments que je vous garoche. En éducation, on affirme qu'on ne fait même pas le strict minimum. En septembre dernier, il manquait une centaine de profs dans les écoles au Québec. Les suppléants se sont succédés pendant des semaines. Le gouvernement Legault était sur la sellette. Mais début janvier, on apprend qu'une douzaine d'enfants de 13 ans n'ont pas de profs pour la quasi-totalité de leurs cours depuis septembre dernier.
Mais voyons.
Pas de suppléants, pas rien. Ces enfants n'obtiennent pas l'éducation qui leur est garantie par la loi. Et il n'y a pas eu de levée de bouclier dans les médias parce que cette histoire se déroule dans la communauté d'Akulivik au Nunavik. Selon la commission scolaire Kativik, ces ruptures de services font en sorte que les élèves prennent du retard scolaire et se découragent, particulièrement au secondaire. Les élèves nomment qu'ils se sentent ignorés et dévalorisés par le fait que personne ne veut venir leur enseigner. Ça, c'est un sondage qu'on fait auprès des enfants. Le taux de diplomation au secondaire au Nunavik est de 23% contre 82% dans l'ensemble du Québec. La commission scolaire Kativik est incapable de pourvoir 11% de ses postes enseignants comparativement à 2% à Montréal. On dit que dans les solutions, je finis là-dessus, Québec peut toutefois faire un geste qui aiderait à court terme, permettre aux enseignants qui vont au Nunavik de ne pas perdre leur ancienneté dans leur centre scolaire au sud, ça serait déjà pas pire, et pour les 23% d'Inuits qui obtiennent leur diplôme, on pourrait leur offrir l'option de continuer leurs études professionnelles ou collégiales sur place, plutôt qu'aller dans le sud. On pourrait aussi développer l'école virtuelle et offrir davantage de formations sur place adaptées aux besoins du Nunavik, comme la formation des sages-femmes Inuits, un programme qui fonctionne très bien depuis des décennies. Fait que ça, c'est le dossier de la presse. Il y a aussi logement, c'est toujours aussi honteux. Soigner les Inuits et le plus possible chez eux. Et moi, je vous parlais de l'article sur l'éducation. Donc, des sujets qu'on connaît un peu, qu'on parle à l'émission des fois, mais quand on voit les chiffres et les situations réelles là, qui arrivent dans les derniers mois, leurs droits sont pas respectés, évidemment.
C'est vraiment très faible, quand on voit les enfants qui eux-mêmes le ressentent puis l'expriment. Là, c'est vraiment d'une tristesse. Mais il n'y a pas de discrimination systémique au Québec.
Voilà, Simon.
Bon, ben on retrouve... Merci beaucoup, Mathieu. Fait qu'on va retrouver Marie-Ève dans une petite minute pour des minières, des extractivismes. Voilà. Toujours aux Apatrides, on te retrouve Marie-Ève dans deux minutes avec ton dossier minière canadienne et droits de la personne. J'en profite pour faire quelques suivis sur des dossiers connexes comme la Première Nation Wet'suwet'en. qui continue de vivre non seulement avec le chantier du pipeline Coastal GasLink, qui détruit et intoxique tout sur son passage et coupe son territoire en deux, mais qui vit aussi avec la présence de la GRC, ou plutôt avec son groupe d'intervention pour la sécurité de la collectivité et de l'industrie, le GISCI, ou on va l'appeler le JCI, qui est là constamment, c'est du 24 heures par jour, 7 jours par semaine, depuis 2019. Le JCI fait l'objet jusqu'à maintenant de 488 plaintes, ce qui a porté fruit, puisque ça a amené à l'ouverture le 9 mars dernier, donc très récemment, à l'ouverture d'une enquête par la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC. Les plaintes portent entre autres sur la violence du groupe d'intervention envers toute forme de blocage ou de protestation, sur des interpellations pour des motifs insignifiants ou imaginaires, sur la multiplication des visites sans mandat, parfois en pleine nuit, au camp où dorment les militants autochtones et écologistes, sur la destruction de leurs biens et de leur clôture qui a dû être construite 4 fois, même si cette clôture n'entrave ni la route qui mène au chantier, ni les opérations de construction du pipeline, sur des armes, des tronçonneuses ou encore des chiens pointés au visage. Il y a même un rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Cali Tsai, qui s'est dit particulièrement préoccupé par l'intensification de la militarisation du chantier. Des éléments qui seront difficiles à justifier devant la commission d'enquête, qui en est encore à ses tout débuts. Donc, dossier à suivre dans les prochaines semaines. Par contre, de ce que j'ai compris, l'enquête porte seulement sur le comportement du groupe d'intervention, le JCI, le bras armé de la GRC pour l'industrie, et non sur la criminalisation des membres de la communauté Wet'suwet'en, des chefs héréditaires et des alliés qui sont allés sur place donner leur appui. Dans le même ordre d'idée, au Nouveau-Brunswick, cette fois, c'est l'industrie du gaz de schiste qui inquiète malgré un moratoire qui date de 2014, et qui exige toujours, en tout temps, la collaboration des Premières Nations pour tout projet qui se trouve dans leur territoire. Il semble que dans les années qui ont suivi l'imposition du moratoire, ça a été plutôt respecté, mais Blaine Higgs, le premier ministre qui n'est pas réputé pour être proche des Premières Nations, y est allé de plusieurs déclarations tout récemment qui indiquent qu'il veut mettre le pied sur l'accélérateur dans l'émission de permis d'exploration et d'exploitation des gaz de schiste, une industrie qui est toujours aussi polluante qu'avant. Blaine Higgs a aussi, sans aucune forme de négociation, de consultation avec les chefs autochtones, affirmé qu'il allait lever le moratoire complètement, ce qui a choqué beaucoup de monde qui ont appris son intention par les médias. Ce moratoire avait été obtenu suite à des luttes acharnées au début des années 2010, mais de la manière que ça se présente actuellement avec cette attitude autoritaire du gouvernement néo-brunswickois, je serais pas surpris qu'on assiste encore une fois à ce genre d'affrontement, peut-être même sur du long terme. En tout cas, M. Higgs semble être excellent pour mettre du gaz sur le feu. Bref, il peut pas décréter comme ça la levée du moratoire sur la fracturation hydraulique, mais c'est du typique Blaine Higgs, une attitude colonialiste méprisante, des déclarations complètement irresponsables et une manière de faire de la politique qui polarise et fait juste créer des tensions. Marie-Ève, on est toujours dans le même ordre d'idées, mais pas dans la même province.
Non, mais ouais, on a de la suite dans les idées, en fait, mais ça faisait longtemps quand même qu'on vous avait pas parlé des méfaits des minières canadiennes à l'étranger.
Ouais.
Et là, Goldcorp, qui est aujourd'hui mieux connu sous le nom de Newmont, a été sévère, ouais, je vous expliquerai, a été sévèrement blâmé dans un rapport du Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises, qui a été publié en février. Les allégations sont sérieuses. Contamination de l'environnement et violation des droits de la personne. Petite mise en contexte, dès son ouverture, la mine Marlin, c'est la mine en question là, de Goldcorp, qui est située dans le nord-ouest du Guatemala, s'est heurtée à une forte opposition de la population locale, majoritairement autochtone maya. Les habitants soulignaient notamment l'absence de consultation et des communications publiques trompeuses. Goldcorp a commencé à fermer en 2017 cette mine d'or et d'argent-là. Et en 2019, la minière a été rachetée par Newmont.
Mais c'est la même compagnie? Non?
Non, c'est été racheté par une autre compagnie. Mais même si la mine est plus en fonction aujourd'hui, les Mayas de cette région-là continuent quand même d'être touchés par les activités de la mine. Dans le rapport, on peut lire que, selon les allégations faites en 2017 par le Front de défense de San Miguel, qui est un groupe communautaire qui s'opposait au projet à l'époque, les opérations de la mine ont fait disparaître 10 sources d'eau, causé des fissures dans les infrastructures de 500 maisons familiales et causé des impacts cutanés chez les enfants dus à l'eau contaminée. Les auteurs ajoutent d'ailleurs que à ce jour, certains membres de la communauté ont toujours pas accès à l'eau potable. Et à l'annonce de la fermeture de la mine, Goldcorp s'était pourtant engagé là à suivre 42 recommandations pour limiter les effets néfastes à long terme, mais l'entreprise en aurait respecté seulement 24, c'est-à-dire la moitié.
Ben ouais.
Et sur le plan des droits de la personne, ben, le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises estime que ce cas-là démontre l'importance du consentement libre et éclairé parce que la violation de ce droit a entraîné, en fait, tout le reste. Par exemple, le rapport explique qu'en 2005, il y a un Maya qui a été tué par balle lors d'une manifestation d'opposition à la mine qui a fait aussi 20 blessés. Ça faisait 40 jours que les manifestants bloquaient le passage du matériel minier destiné à l'installation de Marlin. Le gouvernement guatémaltèque a alors décidé d'envoyer 1200 soldats et 400 policiers. Ça, c'est selon les groupes autochtones de la région. Puis ensuite, ben, entre 2005 et 2011, on dénombre au moins 4 autres opposants qui ont été tués et des dizaines de personnes qui ont été blessées. Même la Commission interaméricaine des droits de l'homme a appelé le gouvernement guatémaltèque à suspendre les activités de Marlin sans succès. Enfin, les auteurs déplorent que aucun changement politique ou législatif pour responsabiliser les entreprises canadiennes à l'étranger a été fait et ils exigent que le Canada change ses politiques de financement des activités minières. Elle va aussi plus loin en soulignant particulièrement que les responsables canadiens sont même intervenus en faveur de Goldcorp auprès des décideurs guatémaltèques après une demande de suspension des activités de la minière là de la part de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des États américains. Il y a d'autres entreprises canadiennes qui ont été épinglées dans le rapport, notamment deux autres minières, Torex Gold Resources et l'infâme Barrick Gold.
Ouais.
Et je termine d'ailleurs sur Barrick Gold en rappelant que depuis novembre dernier, il y a un groupe de plus de 20 Tanzaniens et les membres de leur famille qui poursuivent la minière devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Ils avancent que 5 personnes ont été tuées par la police, 5 autres ont été torturées et au moins 5 autres ont été gravement blessées par les gardes de sécurité sur le site d'une des mines que l'entreprise canadienne exploite en Tanzanie. Donc, il y a du sang dans l'or.
Oui, la CDI devrait peut-être changer ses mandats ou rendre des comptes un peu plus souvent. On dirait que c'est comme un monde un peu intouchable, un peu.
Oui, et assez dont on connaît pas grand-chose, en fait.
Non, donc bonne chance à ceux qui poursuivent ces entreprises-là. Ils s'attaquent à très gros et à très opaques.
Effectivement.
Donc, dans quelques secondes, ça va être l'agenda. On a quelques suggestions pour vous. Tout d'abord, un appel à l'action directe, à l'occupation et la prise de parole. L'événement s'appelle « Résister et rejeter la complicité de l'Université McGill dans la violence de l'apartheid ». C'est dans le cadre de la Semaine mondiale contre l'apartheid israélien. Ça va se passer à l'entrée principale du campus, angle Sherbrooke West et McGill College, demain, vendredi 24 mars à 15h. Apportez vos drapeaux palestinien, là, pas israélien, et vos vêtements chauds. Pour plus d'informations, cherchez les pages FB ou IG, Mathieu Mariève, IG, Instagram, du groupe qui organise l'événement, le SPHR, Solidarity for Palestinian Human Rights, McGill. Je répète, c'est demain 15h au gros portail monumental du campus McGill sur Sherbrooke. C'est pas juste la semaine mondiale contre l'apartheid israélien, c'est aussi la semaine d'action contre le racisme, dont le nom complet est Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. La thématique 2023, c'est l'accueil humain des personnes réfugiées et migrantes, donc probablement beaucoup de travail d'éducation à faire à l'Assemblée nationale du Québec, qui a justement adopté la semaine passée à l'unanimité, incluant Québec solidaire, une motion de Jean-François Roberge, stipulant que le Québec n'est pas un endroit plus raciste que les autres et que la loi sur la laïcité n'a rien de raciste. On n'est pas si pire, OK, là. Donc, excusez, je divague, la semaine d'action contre le racisme, tout plein d'activités en virtuel et en personne. On consulte le site sacr.ca pour toute la programmation et c'est plus un 2-3 semaines d'activité qu'une seule semaine. Il y en a vraiment beaucoup. Aussi à l'agenda, une expo qui a l'air très intéressante au bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, une exposition d'archives. Ça s'appelle « C'est notre lutte, groupes ouvriers et populaires au Québec 1970-1975 ». On peut y voir des publications comme des journaux d'usine, des affiches, des artefacts de toutes sortes extraits du fonds documentaire Robert Demers. Attention, c'est gratuit, mais ça ne dure pas longtemps. C'est seulement à partir de demain jusqu'à dimanche, donc du 24 au 27 mars, au bâtiment 7, 1900 rue Lebert à Montréal. Pour conclure cet agenda, suggestion de lecture, une traduction toute fraîchement lancée du livre The Racial Contract de Charles W. Mills. C'est Webster qui nous offre la toute première traduction française de ce livre presque culte, un grand ouvrage de référence. Un livre qui, selon Webster, explique la façon dont la suprématie blanche depuis des siècles a façonné le monde moderne. Donc le titre en français aux éditions Mémoire d'Encrier, c'est « Le contrat racial ». Et c'est maintenant disponible en librairie et en bibliothèque. Donc oui. Voilà pour l'agenda des apatrides anonymes. C'est maintenant, oui?
Je salue les éditions Mémoire d'Encrier d'avoir enfin traduit ce texte parce que ça n'avait jamais été fait. Puis
ben, il paraît que c'est vraiment un ouvrage fort. Là,
oui, oui, non, c'est un incontournable, c'est un classique.
Parfait. Donc, ben voilà, merci. Et voilà pour c'était l'agenda des apatrides. C'est maintenant, et oui, le moment de la conclusion de cette émission du 23 mars 2023. Avant les au revoir habituels.
Non!
Un mini prix orange, prix citron.
Ah oui!
Le prix citron est remis au garde-côte grec et à leur complice dans la police pour un vol de 2,2 millions d'euros, pris illégalement, il va sans dire, aux migrants qui arrivent de Turquie.
Oh, c'est chic!
Ah, c'est tellement le fond du baril. Là. Vraiment, c'est une enquête sur 6 ans du quotidien espagnol El País. Enquête journalistique jugée très crédible qui arrive à ce moment, à ce montant jugé très prudent. Ce serait probablement beaucoup plus que 2,2 millions d'euros. Et cette somme considérable provient d'argent liquide, de portables ou encore d'effets personnels comme des bijoux. Ça se produira en général juste avant les pushbacks, les refoulements qui sont illégaux aussi vers la Turquie. Donc, tant qu'à agir tout croche, les gardes-côtes se disent « Ben, pourquoi pas en profiter pour dépouiller ces pauvres migrants qui ont presque plus rien pour se faire un peu d'argent de poche pour impressionner ma femme? » Donc, ce qui fait dire aux apatrides anonymes « Fuck you, garde-côte grec ou garde-côte de tout pays. Voilà. »
Oui.
Oui? Est-ce que j'ai osé dire ça?
Oui, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon.
OK, des prix orange maintenant. En fait, peut-être pas tant des prix orange que des salutations aux peuples géorgiens, israéliens, péruviens et indiens qui se battent très, très fort contre la répression actuellement. Peut-être, Marie-Ève Mathieu, vous avez des populations entières à saluer aussi. Peut-être les migrants en Tunisie. Qui souffrent.
Oui, les migrants tunisiens. Côté Israël, je te dirais que c'est une partie de la population. Hein. C'est vraiment très, très divisé.
Ben, c'est cette partie-là que je salue. Hein.
Oui, j'espère bien. Parce qu'il y en a toute une autre qui est vraiment pas drôle.
A-t-on besoin de préciser?
Ah, ben, on sait jamais.
Je préfère. Hein?
Oui.
Donc, voilà à moi les coordonnées des apatrides anonymes. Donc, notre courriel apatridesanonymes@wisist.ca. Notre site web apatridesanonymes.info. Vous pouvez trouver dans notre site nos épisodes en rattrapage ainsi qu'évidemment sur choc.ca. On peut être écouté live sur les ondes de Radio Victoria sur l'île de Vancouver au 107.9 FM. Salut à tout le monde qui nous écoute dans cette magnifique région très, très convoitée des forestières, des pêcheries et des extractivistes. On a aussi une page FB, on n'a pas de compte IG, avec plein de liens vers des activités, des articles, des reportages, etc. Comme le veut la tradition, on se laisse avec une pièce un peu plus longue. Ce sera sous influence jazz, rock et soufi. Le magnifique projet Le Cri du Caire, dont le tout récent album éponyme est au palmarès Globe de Choc. Le Cri du Caire, c'est un quatuor, saxophone, trompette, corde, voix qui tourne autour du chanteur, slameur et poète militant égyptien Abdullah Minwawi, qui est considéré comme un des grands porte-voix de la jeunesse égyptienne depuis une dizaine d'années dans sa quête de liberté, de solidarité. Merci et de démocratie. Je remercie et salue bien bas Marie-Ève et Mathieu.
Nous te saluons bien haut.
On salue les Égyptiens bien bas qui se battent contre un dictateur aussi, évidemment.
Oui, je l'avais-tu nommé dans ma liste en tout? Je crois que oui.
Il s'appelle El-Sisi.
Ah oui, on dit Dikash.
Et le peuple Wet'suwet'en ici.
Oui. En tout cas, on pourrait continuer la liste si on faisait le tour du
programme. Merci Simon pour l'animation.
Ça fait plaisir. Merci à vous pour les contenus et la mise en onde, pour toute la recherche. Donc, on se voit probablement sans moi dans 2 semaines, ce qui nous mène au 6 avril avec peut-être une entrevue.
Peut-être.
Fort probablement.
Vous allez travailler là-dessus et on souhaite que d'ici là, tout le monde se porte bien. C'était les apatrides anonymes sur choc.ca. On se laisse avec le cri du Caire.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Bonsoir.
أهزلت نهاية في
يما 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 اسحبيني يما يما ناوليني يما 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 طايا وطوايا اهزلت نهاي في بلايا واقترن سري يما يما اسحبيني يما 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 اسحبيني يما
هذا لدني.